34 ministres, le gouvernement Le Cornu 2 a été dévoilé. Il est en très grande partie remanié. Manuel Valls n'est plus ministre des Outre-mer. Il est remplacé par Naima Moutchouf. L'église des Saints des Derniers Jours du Vallon d'Or détruite. Elle a été incendiée tôt ce matin. Une enquête a été ouverte. L'incendie est maîtrisé à Païta. Le plan Orsec feu de forêt de niveau 2 est toujours en vigueur. Les pompiers traitent les derniers points chauds. Le plan Orsec de niveau 2 est toujours en vigueur. La visite du directeur technique national de la Fédération française de volley sur le territoire, Philippe Salvan, est actuellement en Calédonie. Il était notre invité ce midi dans le Mac des Sports. Et puis à l'issue de cette édition, comme chaque semaine, nous retrouvons le grand rendez-vous. Invité aujourd'hui, Nicolas Dupont-Aignan, le président de Debout la République. Bonsoir, soyez les bienvenus dans ce journal. Un gouvernement de mission pour donner un budget à la France avant la fin de l'année. C'est ainsi que Sébastien Lecornu a présenté dimanche soir à Paris, ce matin pour nous, le gouvernement qu'il a constitué 2 jours exactement après sa reconduction à Matignon. Un gouvernement Lecornu 2 qui est composé de 34 ministres, dont 19 de plein exercice, et qui mêle des personnalités de la société civile, des profils expérimentés et de jeunes parlementaires, Elisabeth Noir.
Au total, 26 ministres, une étiquette partisane, et 8 viennent de la société civile. Parmi les principales personnalités de ce gouvernement Lecornu 2, le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, il est nommé ministre de l'Intérieur pour succéder au président de LR, Bruno Retailleau, qui quitte le gouvernement. L'ancien PDG de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, est nommé au travail. Monique Barbu, l'ex-présidente de WWF France, est ministre de la Transition écologique. L'ex-directeur général de l'enseignement scolaire, Édouard Geffray, est nommé à la tête du ministère de l'Éducation, ce qui entraîne la sortie du gouvernement d'Elisabeth Borne. Parmi les autres nominations de personnalités moins connues, mais politiques cette fois-ci, le chef des députés indépendants Liotte, Laurent Panifou, se voit confier les relations avec le Parlement, et la députée macroniste Maud Bréjon est porte-parole du gouvernement. Plusieurs ministres déjà présents dans les gouvernements Bayrou ou Barnier restent en place. C'est le cas de Catherine Vautrin qui quitte le travail et la santé pour le ministère des Armées, de Jean-Noël Barrot qui reste aux affaires étrangères et de Rachida Dati qui conserve le ministère de la Culture. Une surprise alors que Sébastien Lecornu s'était donné comme consigne de ne s'entourer que de personnalités n'ayant aucune ambition pour 2027. Gérald Darmanin est reconduit comme garde des Sceaux, mais il a annoncé sur X qu'il se mettait en congé de ses activités partisanes. 6 ministres viennent par ailleurs du Parti Les Républicains, dont la consigne était pourtant de ne pas participer au gouvernement. Il s'agit d'Annie Genevard, qui est reconduite à l'agriculture, de Vincent Jeanbrun, qui devient ministre du Logement, de Philippe Tabarot, qui est reconduit au transport, de Rachida Dati, qui conserve le ministère de la Culture, mais aussi de Sébastien Martin à l'Industrie et de Nicolas Forissier au Commerce extérieur. Ils devraient tous les 6 être exclus du parti.
Il y a aussi 3 ministres venant d'Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Parmi eux, Naima Moutchou, la nouvelle ministre des Outre-mer. Elle succède à Manuel Valls qui quitte le gouvernement, Elisabeth.
La députée Horizon est une avocate et elle était ministre de la fonction publique dans le premier gouvernement Lecornu. Sa première tâche sera le dossier de l'avenir de la Nouvelle-Calédonie qui reste l'une des priorités du gouvernement. Sur X, elle déclare accepter cette responsabilité par fidélité à l'État et par devoir envers nos compatriotes des Outre-mer. Je mettrai toute mon énergie à leur service, écrit-elle, avec une attention très immédiate pour la Nouvelle-Calédonie. Âgée de 44 ans, Naima Moutchou est d'origine marocaine. Ses parents sont arrivés en France en 1961. Après des études de droit, elle a exercé de 2010 à 2017 comme avocate et elle est aussi engagée bénévolement auprès de la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme. À ce titre, elle s'enorgueillit d'avoir fait condamner l'un des premiers cas de racisme anti-blanc. En 2017, elle a été députée du Val-d'Oise, elle a été la première vice-présidente du groupe LAREM en 2019 et elle est devenue vice-présidente de l'Assemblée en juin 2022. Elle ne sera restée que 14 heures ministre de la fonction publique avant la démission du premier gouvernement Lecornu. La chef des files des loyalistes, Sonia Baquès, se félicite de la nomination de Naima Moutchou aux Outre-mer. Mais elle souligne que le dossier calédonien sera de toute façon suivi par au moins 3 ministres, Sonia Vaquez, qui tient aussi à saluer l'action de Manuel Valls.
Je veux saluer le travail de Manuel Valls, malgré nos désaccords très profonds il y a quelques semaines. Depuis Bougival, il a mis beaucoup d'énergie à redresser la Nouvelle-Calédonie, à faire avancer les dossiers calédoniens, donc je veux saluer son action. Ensuite, on aura pour la Nouvelle-Calédonie, finalement, Naïma Moutchou, évidemment, mais au-delà de Naïma, un trio, puisque Sébastien Lecornu connaît très bien le dossier et qui continuera évidemment à le suivre. Et Laurent Nunez, qui est le ministre de l'Intérieur, va également avoir à nous suivre pour les questions de sécurisation des élections et de maintien de nos forces de sécurité en Nouvelle-Calédonie.
Un trio pour suivre le dossier calédonien, et Sonia Vaquez connaît bien par ailleurs la nouvelle ministre des Outre-mer.
Naïma, c'est quelqu'un qu'on connaît bien, avec laquelle moi j'ai eu l'occasion de travailler quand j'étais à Paris, qui est quelqu'un de très compétent, qui est une proche d'Édouard Philippe. Édouard Philippe est en soutien très fort à l'accord de Bougival, donc je suis rassurée par cette configuration, avec évidemment l'inquiétude qui reste de savoir si le gouvernement de Sébastien Lecornu va passer la semaine, puisqu'aujourd'hui on est en attente notamment de la question de la censure ou pas du côté des rangs du Parti Socialiste. Donc on verra quelle est la durée de ce gouvernement, mais s'il venait à rester, c'est plutôt une configuration rassurante pour ceux qui souhaitent que l'accord de Bougival aille à son terme.
Une configuration plutôt rassurante si le gouvernement Lecornu 2 n'est pas censuré. Satisfaction également pour le député Nicolas Metzdorf, il connaît bien Naïma Moutchou, avec laquelle il a siégé à l'Assemblée nationale.
Naïma, c'est une collègue de l'Assemblée nationale. Je la connais depuis que j'ai été élue députée, puisqu'elle était vice-présidente de l'Assemblée. Et surtout, elle a participé avant 2022 à des missions d'information sur la Nouvelle-Calédonie. Elle est déjà venue à Nouméa plusieurs fois. Et donc, elle connaît bien le territoire. Elle a suivi le dossier. C'est une femme de droite. C'est une femme de conviction. C'est une femme de caractère. Elle nous vient de chez Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Donc, je trouve que c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, pour moi, il n'y a pas de difficultés particulières. On se connaît bien. Je pense que je la verrai après la passation de pouvoir pour évoquer le dossier. On va certainement aussi être rapidement dans le vif du sujet avec les textes qui arrivent sur le décalage des élections provinciales.
Réaction également chez les indépendantistes avec des interrogations de la part du Palika. Il reste engagé dans le processus de Bougival, mais il regrette le départ de Manuel Valls. C'est ce que nous a dit l'un de ses porte-parole, Judy Kael-Séléphène.
Comme tous les Calédoniens et tous les Français, on a suivi un peu les péripéties du gouvernement central, puis la chute du gouvernement Guéraud. Donc ce qu'on peut dire, nous, là, à ce stade, c'est déjà à l'annonce du remplacement de M. Valls, on tenait à saluer le travail qu'il a effectué en tant que ministre des Outre-mer. Ça n'a pas été simple, mais il a quand même permis d'aboutir à un compromis politique. Donc sur la nomination, bah, c'est une personnalité qu'on connaît très peu, voire pas du tout. Et donc, on a quand même des craintes par rapport à ce changement et on s'interroge sur la conduite de la suite en termes de méthode et d'organisation.
Des interrogations sur la méthode. Donc, le Palika tient à saluer la méthode Valls et il craint que les choses ne soient encore plus compliquées désormais.
On a pu observer, en tout cas, la méthode Valls et les modalités de discussion que M. Valls a mis en œuvre a quand même permis d'aboutir à un accord dans un contexte local qui était difficile et un contexte national frappé d'une grande instabilité. Mais on a quand même réussi à aller jusqu'à un compromis politique. Aujourd'hui, la situation locale s'est quand même aggravée. La situation nationale, c'est encore pire, avec très peu de perspectives, beaucoup d'incertitudes. Donc on se pose la question, pourquoi changer un ministre qui a quand même fait du bon travail dans un contexte encore plus difficile? Donc on pense que ça va être encore plus compliqué qu'avant.
Mais le Palika reste engagé dans l'accord de Bougival et il attend des précisions de la part de la nouvelle ministre en charge du dossier.
Ça sera au ministre en charge de nous dire c'est quoi la suite. En tout cas, pour l'heure, nous, on est toujours engagés pour la poursuite du portage de cet accord. Mais à l'heure actuelle, on n'a pas d'information. En tout cas, les enjeux sont connus, liés à l'accord. Mais la nouvelle ministre en charge devra nous dire la position de l'État et surtout la méthode de travail à compter d'aujourd'hui.
Je dis qu'elle, c'est les fins de porte-parole du Palika. On peut noter par ailleurs que de 2021 à 2022, Naïma Moutchou, la nouvelle ministre des Outre-mer, était vice-présidente de la mission d'information sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie à l'Assemblée nationale.
Et j'ajoute que le Premier ministre a souhaité des passations de pouvoir sobres dans les différents ministères, sans presse et sans invité. Ce sera le cas rue Oudinot, où la transmission de pouvoir entre Manuel Valls et Naïma Moutchou se fera au sein du ministère des Outre-mer sans la présence de la presse. A noter que le premier conseil des ministres doit se tenir mardi à 10h, 19h, heure de Nouméa, au retour d'Égypte du président Emmanuel Macron. Et puis, c'est ce mardi également à 14h, heure de Paris, que la commission des lois du Sénat doit doit se réunir pour examiner la proposition de loi organique qui reporte les élections provinciales, Elisabeth.
Cela fait suite à la demande faite vendredi par le gouvernement démissionnaire d'inscrire en urgence à l'ordre du jour du Sénat la proposition de loi organique visant à reporter le renouvellement des membres du Congrès et des assemblées de province de Nouvelle-Calédonie pour permettre la mise en œuvre de l'accord du 12 juillet 2025. Un report essentiel, vous le savez, pour mettre en place l'accord de Bougival et éviter que ces provinciales se déroulent avant la fin du mois de novembre avec un corps électoral gelé. Les services du Sénat ont convoqué pour mardi et mercredi des réunions de la commission des lois pour examiner le texte en urgence. Il sera ensuite examiné en séance publique à partir de mercredi après-midi, selon le calendrier prévisionnel du Sénat. La proposition de loi organique sera ensuite transmise à l'Assemblée nationale et la loi devra être promulguée avant le 2 novembre. À la veille de cet examen, le président du FLNKS, Christian Théin, adresse une lettre ouverte aux parlementaires de la République française pour leur demander solennellement de rejeter cette proposition de loi organique. Il écrit, et je cite, que ce texte en apparence technique serait en réalité une régression politique majeure. Il mettrait fin unilatéralement au processus de décolonisation engagé par l'accord de Nouméa et reconnu par la France en contradiction avec le droit international et des engagements solennels de la République. Une lettre de 4 pages dans laquelle Christian Théin n'hésite pas à faire le parallèle avec la situation de mai 2024 pour dire aux parlementaires qu'une fois encore, ils sont mal informés de la situation calédonienne. Il prétend qu'imposer le projet d'accord de Bougival et retarder les élections, c'est prendre le risque de répéter les erreurs du passé. Et il affirme qu'une seule voie est possible, une issue politique négociée avec le FLNKS pour l'indépendance. Des arguments auxquels ne devrait pas être sensible la majorité des sénateurs. Mais le débat à l'Assemblée nationale s'annonce d'ores et déjà plus tendu.
Radio Rythme Bleu, opinion.
Et voici notre question du jour. Approuvez-vous la reconduction de Sébastien Lecornu comme Premier ministre? Si vous l'approuvez, vous tapez 1, sinon vous tapez 2. Vous envoyez votre réponse au 3146. Merci de votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Dans l'actualité également, aujourd'hui, l'incendie tôt ce matin du local de l'église des Saints des Derniers Jours au Vallon d'Or. Les sapeurs-pompiers du Mont-d'Or ont été alertés aux alentours de 4 heures ce matin. Arrivé sur place, un premier équipage composé d'un véhicule et de 4 personnels a constaté un embrasement généralisé de l'intérieur du bâtiment. Des renforts ont alors été demandés. Ce sont 8 sapeurs-pompiers avec 2 véhicules d'intervention qui ont lutté contre les flammes. Le bâtiment qui ne s'est pas effondré a été entièrement détruit. Le maire du Mont-d'Or, Elisabeth Rivière, s'est rendu sur place.
C'est déplorable pour les communautés qui participent et qui sont actifs dans cette église, sans connotation religieuse pour moi, mais c'est un outil de la commune pour les habitants de proximité. Donc c'est toujours dommage de détruire ce type d'outils. Et vous dire que on se pose aussi des questions parce que souvent on fait focus sur le Mont d'Or, mais depuis un mois cette église est attaquée au niveau international. En un mois, c'est la 5e église qui est brûlée et la dernière était hier en Nouvelle-Zélande avant celle d'aujourd'hui chez nous sur notre commune. Donc on se pose des questions aussi au niveau international si tout ça n'a pas un lien.
Jean-Olivier Smati, le président de l'église des Saints des Derniers Jours, s'est également rendu sur place.
L'incendie s'est produit cette nuit que le compteur électrique qui contrôlait l'alarme a été coupé volontairement en fin de soirée, que plusieurs individus probablement sont rentrés dans le bâtiment, toutes les vitres ont été brisées. Et à partir de 4 heures du matin, là, on a eu reçu vraiment le signal, en fait, il y avait des gendarmes qui étaient sur place avec les pompiers pour mettre fin au feu. La première réaction, forcément, c'est une réaction de sidération, de tristesse, de l'église est là depuis maintenant de nombreuses années. Elle a pour vocation de faire du bien autour, elle a pour vocation d'apporter un message de paix, de partage, de compréhension, et ce qu'on a vécu est le contraire en fait de ce message-là. Et donc, on est affecté, mais on n'est pas accablé, on est triste, mais on n'est pas désespéré, on reste confiant, on va aller de l'avant, on va continuer à à aller de l'avant avec foi et confiance dans l'avenir.
Des propos recueillis par Kelinda Boicot. J'ajoute qu'une enquête pour des chefs de destruction par incendie de biens cultuels, violence aggravée sur des gendarmes, outrage, rébellion et entrave à la circulation sur la voie publique a été ouverte. L'hypothèse d'un incendie criminel est d'ailleurs privilégiée. C'est en tout cas ce qu'indique le procureur de la République Yves Dupas dans un communiqué. Il a notamment été relevé que toutes les vitres du bâtiment avaient été dégradées, ce qui a permis aux auteurs présumés de s'introduire dans les lieux. Des traces de sang ont été prélevées sur les lieux et des analyses sont en cours. Le procureur de la République qui relève également qu'avant l'arrivée des gendarmes sur les lieux cette nuit, les gendarmes mobiles ont été caillassés, leur accès sur site perturbé par des branchages incendiés disposés sur la route et un groupe d'une dizaine de personnes. À leur arrivée au niveau de l'église, ils ont de nouveau reçu des jets de cailloux, mais sont parvenus à interpeller deux individus, un majeur et un mineur de 17 ans, fortement alcoolisés. Ils ont été placés en garde à vue et le sont toujours. Yves Dupas qui indique qu'à ce stade de l'enquête, trois autres auteurs présumés ont été identifiés et sont actuellement recherchés. Ils auraient trouvé refuge au sein de la tribu de Saint-Louis. Le feu de brousse de Païta maîtrisé, mais toujours sur surveillance. Le dispositif déployé par la DSGR a permis de fixer une bonne partie des flammes qui menaçaient la tribu de Bangou et avait nécessité le déclenchement du plan hors sec feu de forêt de niveau 2. Aujourd'hui, les conditions météo ont été plus favorables et les efforts de la sécurité civile ont porté leurs fruits, nous a dit Gwendal Cambon, le responsable des opérations.
On a pu passer un feu maîtrisé ce midi. L'ensemble du dispositif resté en place jusqu'à la fin de l'après-midi a évité tout risque de reprise. Il va encore rester sous surveillance cette nuit et demain matin, mais ça va nous permettre de soulager un peu le dispositif au vu des conditions favorables de l'événement. Le vent est en effet plus faible que ces derniers jours. Là, on devrait laisser deux véhicules en fin d'après-midi et à tourner cette nuit en ronde de surveillance.
Et au total, ce sont plus de 400 hectares de végétation qui ont été détruits par les flammes. Il est 18h03, on va marquer une première pause dans ce journal dans un instant. La suite de l'actualité en Calédonie, bien évidemment, et nous reviendrons notamment sur ce mouvement de mécontentement de la COGETRA à la direction du travail.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Les lundis 13 et mardi 14 octobre dans votre hypermarché Auchan Kéferi, vous cagnotez 10% à l'espace traiteur grâce à votre carte de fidélité. Waouh ! Des plats aux petits oignons préparés en magasin avec amour à déguster chez vous. Waouh ! Ça vaut vraiment le coup. Auchan, le bon moins cher.
Pour gagner des bons d'achat de 100 000 francs, à dépenser où vous voulez, comme vous voulez, envoyez RRB au 4020. Tous les 1500 SMS, pile sur le compteur, 100 000 francs de bons d'achat sont gagnés. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Et si vous n'êtes pas à pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 4020. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 4020. Bonne chance.
Info soir, Lionel Sabot.
Dans l'actualité sociale, je vous le disais, ce mouvement de mécontentement de la COGETRA sur le site du receiving de la Direction du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle. Plus d'un an après les émeutes de mai 2024 et alors que plusieurs centaines d'entreprises ont dû mettre en place des plans de licenciement, le syndicat proteste contre les lenteurs administratives. Écoutez Jean-Pierre Cabard, c'est le président de la COGETRA.
Les dossiers ne sont pas traités ou les dossiers sont peu traités. On constate encore depuis la semaine dernière des dossiers qui dépassent les délais réglementaires et qui donc sont acceptés automatiquement sans examen de la direction du travail, ce qui fait qu'on retrouve aujourd'hui des situations où des sociétés qui bénéficient de plans de licenciement sans avoir eu de réponse de la direction du travail. Ce qui est inadmissible pour nous syndicats de salariés puisque on estime que ça fait partie des procédures de protéger aussi les salariés dans le cadre de ces licenciements-là et donc tout ça doit se dérouler de manière correcte et légale, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. Ça fait de nombreuses semaines qu'on proteste contre ça. On n'est pas reçu par les inspecteurs du travail, on n'est pas reçu par la direction de l'emploi. Donc on montre aujourd'hui notre mécontentement vis-à-vis de tout ça. il y a des gens qui sont licenciés alors qu'on n'a pas respecté leurs droits.
Et j'ajoute qu'une rencontre devrait finalement avoir lieu demain entre la COGETRA et la direction du travail. Vos rendez-vous sur l'antenne de Radio Rythme Bleu, de retour de New York où elle a pétitionné devant la 4e commission de décolonisation de l'ONU. C'est Naya Wateu qui sera demain notre invitée du matin. Elle reviendra sur le message qu'elle a transmis en compagnie de Marie-Laure Ikewe et sur la façon dont leurs interventions ont été accueillies. Elle sera aussi interrogée sur le discours tenu par les autres pétitionnaires. Naya Wateu, invitée du matin, ce sera à suivre demain à partir de 7h30. Et puis dans notre magazine Citoyens, demain à la mi-journée, nous nous intéresserons au mentorat. 26 jeunes de 5e, 4e et 3e sont engagés dans le dispositif de la province sud. Il consiste à mettre en lien un jeune avec un mentor bénévole du monde professionnel qui se rencontre une fois par mois. Le salarié ou chef d'entreprise fait découvrir aux collégiens son métier et l'encourage aussi à croire en lui et développer son potentiel. Pour en parler, nous recevrons Gilles Brial, deuxième vice-président de la province sud, en charge notamment de l'enseignement. Christelle Berger, chargée de mission reconversion et mentorat à la province. Et Cécile Chamberderon, directrice adjointe de la Ségal, nouvellement mentor. Et Joyce Goeta, élève de 3e qui bénéficie de mentorat depuis 2 ans. Un magazine citoyen consacré au mentorat à retrouver demain midi sur RRB. Le retour des vacances scolaires et comme chaque vacances, les ateliers du Faubourg proposent aux enfants des stages de théâtre et d'art plastique. Pour cette période de vacances du mois d'octobre, le thème est la maison hantée. Jusqu'au 17 octobre, les stages d'art plastique accueillent des enfants de 9h à midi pour les 11-16 ans et de 13h à 16h pour les 7-10 ans. Plusieurs ateliers organisés cette semaine sur le thème d'Halloween et tous les jours, les enfants découvriront un nouvel atelier.
Quasiment chaque vacances, c'est mon choix parce que je trouve ça bien, puisque ça nous occupe tout en faisant des choses intéressantes, en apprenant des nouvelles techniques de dessin, donc c'est très intéressant.
Moi, de base, j'adore dessiner et c'est pour pas rester chez moi pendant les vacances à rien faire, comme ça je découvre des nouvelles techniques.
À chaque fois, chaque jour, on découvre ce qu'on va faire, c'est pas du tout à l'avance. Parfois, on n'a pas des tenues adaptées. Mais sinon, on découvre à chaque fois ce qu'on va faire.
Et pour toute autre information, vous pouvez contacter Marion à Dionnet au 92 57 15. Le 92 57 15, un stage de théâtre sera organisé du 20 au 24 octobre. Pour plus d'infos, le 77 54 77. Le 77 54 77. Et si votre prochaine expérience de voyage se déroulait en Nouvelle-Calédonie, c'est le message qui sera bientôt adressé aux téléspectateurs métropolitains. Depuis une semaine, une animatrice et un producteurs du groupe N6 sont sur le territoire. Ils parcourent notre archipel, caméra en main, pour promouvoir la destination auprès de potentiels voyageurs. Charlotte Coulson.
La Minute Voyage, c'est le nom de cette émission lancée l'année dernière sur toutes les chaînes du groupe N6. Un format court, une minute, comme son nom l'indique, pour découvrir une activité dans un lieu touristique. Stéphanie Valton, animatrice de l'émission, et Julien Kerry-Huel, son producteur, ont été invités par Nouvelle-Calédonie Tourisme sur le territoire pour promouvoir la destination. Ils sont tous les deux arrivés en terre inconnue et se sont laissés surprendre par la richesse culturelle de la Calédonie.
Alors Minute Voyage, comme son nom l'indique, c'est une minute pour découvrir votre prochaine expérience de voyage. Voilà, l'idée c'est vraiment de donner envie. Minute Voyage, c'est un carnet de voyage télévisé. On essaie vraiment d'être une source d'inspiration pour les gens, donner envie de voyager. C'est vrai que là, entre l'Est, de l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud, on a vu un éventail de panoramas et puis une immersion dans différentes cultures incroyables qu'on ne soupçonnait pas. Mais déjà, c'est vrai que voilà, cet éventail de paysages et de rencontres est absolument dingue. Et voilà, c'est vraiment ça qu'on va essayer aussi de mettre en image pour que nos épisodes soient très inspirants pour les téléspectateurs et leur donnent aussi envie de venir vivre toutes ces expériences et de rencontrer aussi les Néo-Calédoniens parce que là aussi, il y a beaucoup à apprendre.
Et pour ce faire, NCT, en partenariat avec Air Calin et Atout France, leur ont préparé un programme dense du nord au sud, de l'est à l'ouest de l'île, de quoi faire un tour complet du potentiel touristique de la Calédonie.
On a commencé sur l'île des Pins, on est revenu sur Nouméa, on s'est promené dans le lagon avec du snorkeling, on est allé surtout dans le nord de l'île On a fait une expérience en tribu dans la vallée de Chamba, puis ensuite chez les Broussards. Donc on commence à avoir un panorama qui est extrêmement vaste et complet. On a fait le cœur de vent en gyrocoptère, le bac de la YM qui était nous un petit coup de cœur. Et donc là, on continue les expériences avec le Grand Sud, avec le parc de la Rivière Bleue, puis Nouméa là pendant les prochains jours, ce qui va nous donner un panorama, un patchwork assez complet de la destination, en tout cas pour une première fois en Nouvelle-Calédonie.
Le tout servira à monter 10 épisodes d'une minute chacun, diffusés sur 5 chaînes, M6, W9, Sister, Paris Première et Teva. 48 diffusions au total, qui toucheraient environ 5,7 millions de téléspectateurs, selon les estimations de Nouvelle-Calédonie Tourisme. Un impact important, avec un enjeu double, attirer des touristes, mais aussi redorer l'image de la Nouvelle-Calédonie.
Il y avait aussi l'idée de se dire, voilà, venez, là ici, il y a un potentiel touristique complètement dingue, et c'est vrai que l'image médiatique qu'on a reçue, nous en tout cas depuis la métropole, faisait un peu peur. Et en fait voilà, nous là on va avoir un rôle pédagogique, je pense, c'est de se dire voilà, venez, on vient de le vivre dans des conditions complètement dingues, à votre tour quoi, venez sans crainte. Je pense qu'on va aussi beaucoup alimenter les réseaux en rassurant un peu tout le monde, on va répondre à beaucoup de questions, et voilà, et j'espère qu'on va réussir aussi à montrer que c'est un pays safe, et déjà en les rassurant et en montrant de belles images, des rencontres enrichissantes. Je pense que voilà, on a déjà un joli premier pas quoi. Reste à mettre le deuxième dans l'avion et venir jusqu'ici.
Stéphanie Valton et Julien Kiriuel sont encore en Nouvelle-Calédonie jusque demain. Ils prépareront ensuite 10 épisodes de leur émission La Minute Voyage qui seront diffusés entre le 1er et le 14 décembre, également accessible après ces dates gratuitement sur la chaîne YouTube de Nouvelle-Calédonie Tourisme.
Il est 18h12, on va marquer une dernière pause dans ce journal. Dans un instant, l'actualité sportive et la météo.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Jusqu'au 2 novembre, jouez à la jauge des cadeaux avec Guise. Les essentiels pour bébé sont à remporter. Une chambre tout équipée, les indispensables pour la cuisine et le bain, et même 6 mois de couche Guise Essentials. Chaque participation fait grimper la jauge, et à chaque palier franchi, un nouveau lot se débloque. Alors n'attendez plus, chaque participation compte. Plus d'informations sur le Facebook. Sac et bon NC, règlement déposé chez Maître Citrita.
My Primer propose fruits et légumes, épicerie, œufs, miel, confiture, achats, un rayon boucherie, boulangerie, fromage, crèmerie, un espace vrac, une sélection de surgelés et autres spécialités. Visitez la page Facebook My Primer Nouméa. Du lundi au dimanche, My Primer, 20 route du Vélodrome à l'Orphelinat, dans la côte de l'Église du Vœu, 30 51 30.
Entreprise, cabinet juridique, collectivité, vous souhaitez être lu, être vu, confiez vos annonces légales au site internet rrb.nc. Contact annonce-légale@rrb.nc ou au 25 46 46. RRB, pour être au cœur de l'actualité.
La fin de votre journal Le Sport avec Lionel Sabot.
Et nous avons parlé volley dans notre Mac des Sports ce midi. Le directeur technique national de la Fédération française de volleyball est actuellement en visite sur le territoire. Philippe Salvan, qui était notre invité.
L'idée, lorsqu'on se déplace en Outre-mer, c'est de vraiment superviser tout ce qui se passe au niveau de la Ligue. Donc ça a commencé par des visites institutionnelles au niveau du gouvernement, au niveau du Congrès, à différents endroits, au niveau des coutumiers. Puis après, derrière, c'est les rencontres avec les clubs. Tout ça, c'était dans une première partie. Ensuite, dans un deuxième temps, on est parti un petit peu plus loin dans le Pacifique, sur Wallis, jusqu'à Futuna. Et puis là, c'est le retour pour parler de tout ce qui est vraiment détection. Je vois beaucoup de choses et c'est pourquoi je suis là. Donc j'ai demandé au président de la Ligue et à l'ensemble de son bureau de pouvoir aller à la rencontre des clubs, à la rencontre des entraîneurs. On a fait des formations d'entraîneurs, on a fait de la formation de joueurs, on a fait un petit peu d'arbitrage. Voilà, on essaye de faire un petit peu tout pour que la visite soit productive pour tout le monde, productive localement et puis productive en termes de détection.
Et nous étions également en compagnie de Moïse Calémo, le président de la Ligue calédonienne de volley, pour évoquer l'actualité riche de la discipline.
On est en fin de saison, donc du coup...
D'abord le championnat.
Voilà, le championnat, il y a ce week-end, il y a eu les Coupes jeunes, que ce soit sur les trois provinces. Là, on est dans les phases finales, les finales territoriales. On a les 60 ans de la Ligue qui arrivent aussi le 8 et le 9 novembre. Donc oui, ça s'enchaîne beaucoup. Ben, c'est normal, c'est la fin de saison. Et puis, je pense qu'on doit jouer gros. Et puis... on est dans la dynamique, donc voilà. On a plusieurs projets, les ailes du volleyball, donc la pratique féminine. On a les tournois inter-entreprises, très important, toujours par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière au niveau des entreprises. Donc nous, on a cette dimension sociale et le bien-être au travail. Donc c'est pour ça qu'on a mis cette année ce tournoi-là.
Notez que la Ligue de volley sera également présente à l'occasion du BNC Beach Sport Festival qui se déroulera le week-end prochain sur deux jours à la plage de Lansvata à Nouméa. Un mot de basket avec le début de la Melanesian Cup pour la sélection calédonienne féminine sur les parquets des îles Salomon face aux Pays Hautes cet après-midi. Les filles qui se sont imposées tout à l'heure 63-30 pour leur premier match. On termine ce journal avec la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et les couleurs du ciel, c'est avec vous ce soir, Pierre.
Cette nuit sur l'ouest du territoire, les nuages continueront de dominer en première partie de nuit, accompagnés de localement quelques ondées. Progressivement, les étoiles se découvriront. Ailleurs, les passages nuageux s'imposeront avec des averses attendues sur la côte est, l'extrême sud et plus ponctuellement sur les îles Loyauté. La pointe nord, elle, bénéficiera encore d'un beau ciel. Le vent de secteur nord-est faiblira généralement, ne dépassant pas les 5 à 10 nœuds sur l'ensemble du territoire. La côte ouest restera quasi sans vent. Les températures nocturnes, elles, resteront élevées pour la saison avec des minimales comprises entre 18 et 23 degrés. Demain matin, le soleil s'imposera largement sur l'ouest malgré la présence d'un léger voile de nuages d'altitude. Ailleurs, les passages nuageux seront plus fréquents et pourraient générer quelques averses éparses et ça fera pas de mal. Sur la façade est ainsi qu'au Loyauté, le vent soufflera d'est à nord-est entre 5 et 10 nœuds, parfois variable et faible. Côté ouest, le vent restera discret en début de matinée avant de s'orienter au secteur sud et de se renforcer légèrement, atteignant 5 à 10 nœuds en fin de matinée. Côté mer, elle sera haute cette nuit à minuit pour 1,1 mètre, pour redescendre à 6h49 pour 0,47 mètres et enfin remonter à 14h16 pour 1,33 mètres.